Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Ravelli Lemel, bonsoir. On arrive, comme de coutume, à une nouvelle paracha. On n'arrête jamais l'étude. Donc là, à peine Shabbat sorti, un nouveau chapitre dans la Torah. Et le nôtre, à présent, est Vaïgash. Alors Vaïgash, c'est la rencontre entre Yuda et Yosef, qui dirige l'Égypte. Et là, ça ne se passe pas bien du tout. Jusqu'à présent, on entendait, ils essayaient de composer les uns les autres. Et là, ça se passe très très mal. Alors, quel est l'enjeu? En fait, pourquoi cette montée de pression? Et quel est l'enjeu de notre paracha de cette semaine, Rablemel?
Oui, tout à fait, Bernard. On est dans cette paracha dans laquelle il va y avoir cette confrontation entre Yehuda et Yosef. Enfin, Yehuda est celui qui est le vice-roi d'Égypte à ce moment. Il ne sait pas que c'est Yosef. Et on voit qu'il y a un conflit énorme qui se construit entre les deux. Et c'est intéressant de voir, alors bien sûr, nos Chachamim voient ici déjà l'expression de la puissance de ces deux personnages qui, en effet, d'un côté, il y a Yehuda, cette malchoute, Yosef, celui qui, en effet, rappelons-nous, va être l'élément qui va pouvoir repousser Esav, c'est-à-dire l'ennemi du clan Israël, hors de notre histoire par la suite. Donc, il y a en effet ce dialogue très très fort. Mais la première chose qui se révèle dans ce passouk, c'est en effet avant tout la bravoure de Yehuda et surtout ce combat qu'il mène pour libérer Binyamin. Et on sait qu'il y a ici une forme de test qui est en train de mettre en place Yosef, savoir jusqu'à où ses frères sont prêts à se battre pour Binyamin, alors que tout laisse à croire que Binyamin est coupable. C'est-à-dire, personne ne peut imaginer que c'est Yosef, donc le vice-roi d'Égypte, qui aurait caché sa coupe à l'intérieur des affaires de Binyamin. C'est inimaginable. Donc, vous imaginez un petit peu la situation des frères. Ils voient que cette coupe, qui appartient donc au vice-roi d'Égypte, est chez Binyamin, et ils ne peuvent pas imaginer autre chose que sa culpabilité. Et quelque part, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on sait qu'il y a ici quelqu'un qui est responsable de ce qui lui arrive quelque part. Et là, malgré tout, Yehuda dit, j'ai pris un engagement, je tiens mon engagement. J'ai dit à mon père qu'il reviendrait, il reviendra. Si c'est à moi de prendre cette peine que tu as envie de mettre en place pour lui, je la mets en place. On a ici, au fond, deux midotes fondamentales que la Torah met en exergue à travers cet événement et qui vont peut-être nous renvoyer à ce que doit être véritablement la notion de malchoute, la notion de royauté, puisque Yehuda va incarner cette dimension de malchoute. Tout d'abord, cette notion de bravoure, de courage, c'est-à-dire il n'a pas peur de se confronter à Yosef. Pourtant, ils sont quelque part dépendants. Yosef, ce vice-roi d'Égypte, c'est lui qui donne à manger. Eh bien, ce n'est pas grave. Si à un moment, il y a quelque chose à faire, on le fait et on l'assume. L'autre élément que l'on voit et qui est très très fort, c'est quoi? Eh bien, c'est que il y a la fidélité à la parole. J'ai pris un engagement, je le tiens, quelles que soient les conditions. Et ça, c'est quand même quelque chose de rare parce que souvent, même quand on prend un engagement ferme et fort, mais lorsque les circonstances de la vie font que les choses devraient être peut-être beaucoup plus difficiles pour pouvoir assumer notre engagement, alors on se cache derrière la difficulté et on explique qu'on aurait bien voulu, mais que voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'était comme ça. Si on réfléchit au fond, on a pris un engagement. On a pris un engagement au Sinaï. Et malheureusement, souvent, on utilise comme prétexte les difficultés, le fait que ça ne soit pas toujours si simple pour ne pas tenir nos engagements, et on le voit aussi dans le monde des relations humaines. Et ici, Yehuda est en train de nous montrer qu'est-ce que veut dire la force d'un engagement. Ki avdecha arav et anar. Il dit, mais Avdecha, ton serviteur, c'est-à-dire, il est en train de dire à Yosef, oui, je suis bien conscient que je suis à l'image d'un serviteur par rapport à toi, car tu as tous les pouvoirs, mais je te rappelle. Et au fond, il est en train de dire à Yosef, mais peux-tu m'expliquer comment je vais me défaire de mon engagement? Est-ce que tu peux me donner les moyens de savoir comment on pourrait mettre ça de côté? C'est inimaginable, ce n'est pas possible. J'ai pris un engagement, donc je vais le tenir. Et on comprend encore mieux d'ailleurs ce que les Chachamim nous disent. Tov shelotidor mishetidor velot shalem. Il vaut mieux ne pas faire de vœux plutôt que de faire des vœux et ne pas les payer, parce qu'un engagement, c'est un engagement. Il faut le tenir, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, il y a, et ça c'est la troisième chose, cette qualité d'un vrai chef. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui assume. Parce que c'est vrai, c'est Binyamin sans doute qui a volé. En tout cas, tout laisse à penser que c'est lui. Et si c'est pas lui, c'est très surprenant. Mais comment se fait-il que cet objet se trouve dans ses affaires? Mais le sujet n'est pas là. Le chef, c'est celui qui couvre. C'est celui qui se met devant. Vous savez, un petit peu, on sait qu'en Israël aussi, en tout cas, c'est comme ça qu'on disait lorsque j'étais plus jeune, et je suppose que c'est toujours la même chose, eh bien, que ceux qui dirigent disent aux soldats de les suivre, c'est-à-dire que ceux qui sont les chefs vont devant. Vous savez, c'est comme dans le monde du travail. Quelqu'un qui a une responsabilité, il est là pour protéger ses salariés, il est là pour endosser. Imaginez quelqu'un qui a des salariés, et il leur a demandé de faire certaines choses, ils n'ont pas fait, et puis un client se plaint. Eh bien, c'est à toi d'assumer. C'est vrai que c'est d'autres qui ont fait les choses, mais c'est à toi d'assumer. Au fond, c'est une certaine grandeur, c'est une certaine noblesse. Si on a une place, cette place crée chez nous une responsabilité. Et on va voir que Yosef, au fond, va le pousser à bout, va tout faire pour essayer néanmoins de faire fléchir Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il veut être sûr qu'il y a, j'ai envie de dire, un changement structurel à l'intérieur maintenant de ses frères. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un changement conjoncturel, c'est-à-dire, bon, eh bien, on va tenter de se battre pour notre frère, mais si ça marche pas, tant pis, non. Si Yehuda est capable de se battre d'une telle manière, c'est qu'au fond, il révèle qu'il y a quelque chose de structurel dans son modèle de fonctionnement, c'est-à-dire que, même si je le dis pas peut-être de la meilleure manière, mais Yehuda, ça y est, montre que les frères sont dans cette solidarité sans faille, montre que même si à un moment, un des frères a fait une erreur, et que peut-être on pourrait lui dire, ben débrouille-toi, non, nous sommes frères, nous sommes ensemble. Et c'est un petit peu cela la force du peuple juif, c'est ça aussi qu'on doit voir dans cette période que le clan Israël passe. Certains pourraient dire, non mais s'il arrive telle chose, c'est parce que certaines personnes font ceci ou font cela, c'est pas le sujet. On est ensemble, on est là pour s'occuper les uns des autres, et si à un moment il faut y aller, alors on y va. Ce courage de Yehuda, ce sens de la responsabilité, cette capacité d'affronter les choses, de ne pas utiliser la difficulté pour prendre la fuite, le fait qu'il se mette en avant pour pouvoir assumer son rôle, voilà au fond cette leçon incroyable que ce texte est en train de nous donner et qu'évidemment nous espérons mettre en pratique, non pas dans des circonstances complexes, mais au contraire, pour pouvoir utiliser toutes ces qualités pour construire encore et encore. Shabbat shalom.
Rav Lemel, en vous écoutant, je voulais vous poser une question sur les otages. Parce que c'est... On parle de Yosef, là, c'est pour ça que j'y pense. C'est très frappant. D'abord, déjà, concrètement, les otages ont été libérés 2 ans, jour pour jour. Enlevés Simchat Torah, rendus à leur famille Simchat Torah, 2 ans, jour pour jour, et on avait vu que c'est aussi 2 ans que Yosef est resté en plus. Donc il y a quelque chose qui, en tout cas, nous interpelle. C'est aussi 2 ans que Yosef était resté en plus dans les prisons. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais avoir votre point de vue, c'est tous ces juifs non religieux qui étaient à des fêtes, des rêves partis, dans des jours où les autres prient, et qu'on retrouve, comment dire, animé d'une foi profonde dans les tunnels. On les voit faire Hanouka, on les voit faire Shabbat devant des tables vides. Et la question que je me suis posée, parce que Est-ce qu'on pourrait dire, nous, on a tous prié, on a tous fait des Tehillim pour les faire sortir, mais est-ce qu'on, et on pensait les protéger. C'est le principe. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, par cet acte-là, sans qu'on le sache, finalement, c'est eux qui nous protègent.
Évidemment, Bernard, évidemment. Il y a quelque chose ici d'absolument bouleversant, mais plus que bouleversant, de voir comment l'âme juive, eh bien, est là. Comme le texte nous le dit, Netzach Israël, lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne mentira jamais. Cette éternité, eh bien, on l'a retrouvée dans le fait que, dans ces circonstances-là, nous avons des frères et des sœurs qui font émerger ou réémerger des choses que certains avaient peut-être un petit peu, d'autres beaucoup plus, peut-être d'autres pas du tout, mais qui sont enfouies au plus profond d'eux-mêmes. On a ici ce que l'on appelle en yiddish « pinteloïd », c'est-à-dire cette petite lumière du juif qui est là, qui parfois est recouverte, mais la lumière ne s'éteint pas. Et c'est ça qu'on souvent on oublie. On pense que la lumière s'éteint. La lumière ne s'éteint pas. Elle est recouverte. D'ailleurs, beaucoup de maîtres du Moussar nous disent que cette lumière de l'âme, elle est là et parfois ce qui la recouvre malheureusement, eh bien, c'est l'ego ou alors le matérialisme. L'ego et le matérialisme qui sont deux éléments qui peuvent en effet empêcher la lumière qui est présente. Mais lorsqu'il y a des événements, eh bien, cet ego, cette matérialité, ce matérialisme, eh bien, se fende un petit peu. Il y a des fentes et on voit réémerger cette lumière. Alors, évidemment, dire que c'est eux qui nous ont protégés, nous qui les avons protégés, c'est le créateur de l'univers qui est au-dessus de tout. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on pense faire des choses, mais on ne se rend pas compte de ce qu'ils font. Parce que, au-delà de l'impact spirituel que ça a pu avoir, puisque, rappelons-nous ce que nos maîtres nous disent, que une petite chose faite dans la difficulté a tellement plus de valeur que beaucoup de choses qui sont faites sans aucune difficulté, même s'il ne faut pas chercher les difficultés, mais quelque part, lorsqu'on arrive à faire des choses, même dans la difficulté, alors qu'il y a une valeur extraordinaire. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important, c'est la leçon qu'ils nous donnent. Il y a eu l'impact, évidemment, de ce qu'ils font au niveau, j'ai envie de dire, de l'économie spirituelle du peuple d'Israël. Mais il y a aussi la leçon qu'ils sont en train de nous apprendre. On voit ici des personnes qui ont décidé que la meilleure manière d'avancer, c'est de se connecter encore plus à leurs racines. De faire en telle sorte que, malgré les difficultés, le lien avec le passé ne s'arrête pas parce que c'est ce lien avec le passé qui va construire le futur. Et je crois que ils sont en train de dire beaucoup de choses alors qu'ils ne sont plus au monde, à nous tous qui sommes présents ici et qui avons vu les choses ou même juste entendu parler. Ils sont en train de nous dire, n'attendons pas d'être dans des situations de difficulté pour pouvoir se reconnecter à notre identité. N'attendons pas de nous retrouver face à des moments bouleversants pour prendre le temps de réfléchir vraiment à ce que nous voulons faire dans notre vie et surtout de notre vie. Et en même temps, il nous montre ce qu'est la force, ce qu'est le courage, ce qu'est, au fond, la meilleure recette pour ne pas s'écrouler. C'est d'être capable de se dire, nous avons un passé. Ce passé n'a pas été simple. Mais Hanouka, c'est ça. Ça n'a pas été simple. Et malgré tout, Am Yisrael Chai, le peuple d'Israël est vivant. Malgré tout, nous avons réussi à surmonter les épreuves de l'histoire et à construire une histoire qui est éternelle. Alors, ce que l'on souhaite, c'est qu'évidemment, de là où elles sont, ces neshamot, eh bien, puissent continuer à nous envoyer toutes les énergies dont on a besoin. Et surtout, que nous n'ayons plus jamais besoin, aussi bien au niveau individuel que collectif, d'être confrontés à des images aussi belles et en même temps tellement bouleversantes pour reprendre contact avec la réalité, voir où se situe l'essentiel et où se situe l'accessoire, choisir l'essentiel, redonner à l'accessoire sa place et refaire en telle sorte que les lumières du Klal Israël puissent brûler de la manière la plus éternelle et illuminer le monde dans lequel nous sommes.
Ravi de Lemel, merci et Shavua Tov. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shavua Tov.
Shavua Tov, Chanukah Sameach.
Chanukah Sameach.
Chodesh Tov, Mvorar. On est dans Rosh Chodesh encore. Ce Rosh Chodesh que les Grecs voulaient nous empêcher de fêter. Et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour nous tous.
Ah, j'adore quand on multiplie les brachot comme ça. Quand on a l'occasion de se dire plein de choses en même temps.
Amen.
Et que ce Chodesh soit la fin de toute notre tsarot, comme on dit dans la prière.
Amen.
Rav Mordechai Biton, dans Vayigash, il y a la notion de rencontre. Donc, ça démarre mal, mais il sort quelque chose. Et vous y voyez une similitude avec les fêtes de Hanouka que nous vivons en ce moment, puisque il est connu que à Hanouka, les Séfarades font exceptionnellement comme les Ashkénazes, c'est-à-dire choisissent les décisionnaires qui sont plutôt Ashkénazes, on va dire, en allant plutôt comme le Roche, par exemple. Et étonnamment, les Ashkénazes font le contraire, en allant vers le grand Possek des Séfarades, qui est plutôt Rambam. Et il y a une rencontre là aussi. Alors c'est intéressant, on va voir où vous allez nous emmener avec votre réflexion ce soir, Rav Mordechai.
Oui, c'est à Hanouka, les Sfaradim allument une menorah par maison. Et en fait, ils suivent en cela les décisions de Tosfot, des Balai Tosfot et du Rosh plus tard, qui sont les grands décisionnaires de base du monde Ashkenaz. Par contre, les Ashkenazis vont suivre le Rambam, Maïmonide, qui lui est le grand décisionnaire de base, plutôt de Maran, donc du Shulchan Aruch, et donc vont allumer plusieurs menorotes à la maison, autant de membres de la maison qu'il y a dans la maison et autant de menorotes. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un chassé-croisé ici. Il y a un chassé-croisé. Un chassé-croisé qui signifie quoi ? Qui signifie qu'en fait, à un moment donné, pour des raisons qui touchent à la halakha, mais on ne va pas rentrer dans ces raisons-là ici, pour des raisons qui touchent aussi à l'essence même de la fête de Hanouka. Dans la fête de Hanouka, en fait, les Juifs se sont rencontrés, se sont retrouvés à nouveau. Pendant des années, pendant quelques dizaines d'années, les Grecs avaient introduit l'oubli, la séparation, la dispute. Et en fait, nos sages nous disent que les grandes disputes, les grandes machloquettes, les grandes oppositions sont nées à l'époque des Grecs parce que les Grecs ont introduit l'oubli. Ils ont introduit l'oubli dans la Torah. Et en fait, l'effort des rédacteurs, des sages de l'époque de la Gemara, de la Mishnah et de la Gemara, les sages de la Torah orale, ça a été de retrouver finalement tout ce qui avait été perdu par l'étude. Et donc finalement, de nous faire découvrir les multiples facettes de la Torah. Il y a dans la Torah orale quelque chose qui marche très très bien avec la physique quantique. Souvent, par exemple, il y a des discussions, par exemple sur l'allumage des bougies de Hanouka. Beit Shammai dit qu'il faut allumer en le premier jour 8, après il faut aller en décroissant. Beit Hillel dit qu'il faut aller en allumant de plus en plus. Et en fait, on nous dit « Elou, Elou, Divrei Elokim Chaim », les deux reflètent la parole divine. En fait, la parole divine, elle s'est séparée en plusieurs éclats. Et ceux qui ont travaillé à diffuser la Torah orale et à la mettre par écrit plus tard, nous ont montré qu'il y a une multitude de facettes d'expression de la vérité divine à l'intérieur donc, d'une vérité qui est une vérité unique au départ. C'est-à-dire qu'il faut écouter les sages d'Israël. Mais les sages d'Israël eux-mêmes nous ont montré que la Torah était d'une certaine manière quantique, au sens où il y avait de multiples facettes et que ces multiples facettes reflétaient une même unité au départ. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici finalement dans cette fête de Hanouka. Finalement, là encore, il y a des discussions entre les décisionnaires, mais il y a un chassé-croisé. Comme si en quelque sorte, ce qui était important, c'est de refléter la lumière divine. La lumière de la Torah, les lumières de Hanouka. On ne peut pas s'en servir, la lumière de Hanouka, on ne peut que les regarder. La fête de Hanouka, si vous regardez bien dans la Halakha, c'est une des fêtes sur lesquelles il y a le plus de sfekot, de doutes. Le plus grand nombre de cas sur lesquels on discute, c'est entre autres la fête de Hanouka, où on doit allumer, comment on doit allumer, etc. C'est quasiment intarissable dans la Halakha. Donc il y a, si vous voulez, ici la révélation d'une multiplicité de facettes, mais autour d'un fait unique, qui est d'allumer la menorah. Bah, qu'est-ce qui se passe dans Parashat Vayigash ? Parashat Vayigash, enfin, Vayigash Elav Yehuda. Enfin, Yehuda trouve en lui la force de s'approcher de Yosef. En apparence, il vient ici combattre Yosef, qui ne veut pas les laisser repartir, et en fait, Yosef les provoque. Mais le fond de l'affaire, nous disent tous les commentateurs, le Rachem Akadosh, le Kliyakar, tous les commentateurs qui sont autour, c'est que le texte de la Torah vient nous raconter une autre histoire, qui est qu'enfin, le roi Yehuda, qui représente la royauté dans le peuple juif, comprend que pour faire advenir sa royauté, sa royauté à lui, la royauté de Yehuda, la royauté du Mashiach, il faut passer par Yosef. Il faut passer par lui. Et donc, Vaïga chez Lav, il s'approche de lui. Enfin, il s'approche de lui. Et enfin, va se nouer ici, entre les deux, de manière, si vous voulez, sous-jacente, une poignée de main. Et cette poignée de main signifie la chose suivante. Dans l'histoire du peuple juif, il y a la royauté de David, c'est la royauté du Mashiach, celle pour laquelle on prie trois fois par jour. Il y a eu cette royauté qui s'est exprimée au départ, qui vient de Yehuda, et c'est pour ça que nous on s'appelle des Yehudim. À l'époque où on a été en exil en Babylonie, on a pris le nom de Yehudim pour se rappeler qu'il y avait eu des rois de la tribu de Yehuda, pour se rappeler que la vraie royauté venait de Yehuda et que la vraie royauté à laquelle on aspirait, c'était la royauté du Mashiach. C'est ça le Yehudi. Le Yehudi, il est modé, il reconnaît, et en même temps, il veut quelque chose, il veut un projet. Mais par quoi il est obligé de passer ? À Pourim, on a vu qu'on est obligé de passer par Mordechai. Mordechai venait de la tribu de Binyamin. Binyamin, c'était le petit frère de Yosef, c'était Rachel. Il fallait passer par une phase qui était la phase de l'exil de l'obscurité, dans laquelle finalement le juif reste juif, en dépit de l'obscurité qui l'entoure. Il est comme les bougies de Hanouka. Le juif ne fait pas de djihad. Le juif n'impose rien à l'humanité. Son rôle, c'est d'être comme les bougies de Hanouka. Il est là, et il incarne une lumière. Celui qui veut l'apprendre, il peut l'apprendre. Celui qui ne veut pas, ne l'apprendra pas. Yosef, dans l'exil, il est dans l'exil égyptien. Celui qui veut venir vers Yosef, il pourra venir Yosef. Celui qui ne veut pas, ne viendra pas. Et ces deux forces, l'affirmation de la royauté et l'affirmation de l'être, c'est deux forces qui sont tout à fait fondamentales dans le peuple juif. Là, on est encore dans l'exil. Donc, qu'est-ce qu'on montre à l'humanité ? La force de l'être. On est comme les bougies de Hanouka. Et je le dis souvent d'ailleurs dans les couples dans lesquels il y a un déséquilibre, où il y en a un qui est plus religieux que l'autre, je dis toujours à celui qui est le plus religieux, ne faites pas de reproches, ne dites rien, ne commencez pas à vous battre. Soyez comme les bougies de Hanouka, vous éclairez. Ne vous inquiétez pas. Priez Hachem, Hachem fera le reste. D'accord ? Si vous commencez à faire des reproches, à combattre et à jouer les, entre guillemets, les guerriers dans la famille, vous n'arriverez à rien. Prenez un chemin qui est long mais qui est court. Le chemin de l'être, c'est-à-dire le chemin de Yosef, il va nous amener à Yehuda. Il va nous amener à la révélation messianique. Le juif, son rôle, c'est d'être. Depuis le Har Sinaï, depuis la rencontre du Har Sinaï, le juif, d'abord, il est, E-S-T. C'est ce qu'il incarne. Et ça, c'est l'essence même de cette rencontre qui va se nouer ici dans Parashat Vaïgash, et c'est l'essence même de la fête de Hanouka. Encore un dernier point, ce soir, on est encore dans Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, donc le nouveau mois du mois de Tevet. Et il faut se rappeler que les Grecs ont voulu nous interdire de fêter Rosh Chodesh, de nous réunir pour fêter le nouveau mois. Il y avait deux raisons à ça. La première, c'est qu'en fait, les Juifs se réunissaient en masse, et toute réunion juive, pour des raisons spirituelles, les Grecs la combattaient. Mais la deuxième, c'est qu'on disait aux Grecs, finalement, nous aussi, on est fort en astronomie, et vous aussi, vous êtes fort en astronomie. On est fort en physique, vous êtes fort en physique. On est fort en maths, vous êtes fort en maths. On est fort en philo, vous êtes fort en philo. D'accord. Mais la différence entre vous et nous, c'est que tout ça est contextualisé. C'est-à-dire que ça vient d'Hachem, ça retourne vers Hachem et ça exprime l'existence d'Hachem, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez introduit l'obscurité parce que vous avez voulu détacher la chorma, la sagesse, de sa source divine. Nous, notre travail, c'est de révéler la vérité divine au travers de la sagesse dans le monde dans lequel on vit. Voilà, mes amis. Alors, des bonnes choses, Bézant Hachem, et que le mois de Tevet soit effectivement un mois qui mette fin à toutes nos souffrances, comme on va le dire, comme on l'a dit dans le Moussaf, et quand on prie régulièrement. Alors, à toutes et à tous, de très, très bonnes nouvelles.
Très bonne nouvelle, et que s'on dirige vers des belles choses spécialement pour vous à Jérusalem. C'est important, c'est là que nos cœurs à tous sont portés. Bonsoir, alors on redit, hein, on se fait plaisir. Hanouka Sameah, Chodesh Tov et Shavua Tov. Bonsoir à vous, Rav Mordechai.
Amen, amen.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Et c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shavua Tov.
Shem lo yivne ba'ir, shalom le'voy na'voy, yim Hashem lo yishmarir, shav shokat shoy ba'ir. Yim Hashem lo yivne ba'ir, shalom le'voy na'voy, yim Hashem lo yishmarir, shav shokat shoy ba'ir.